pour certains à défendre la justice fiscale et que par une sorte de mauvaise foi de l'institution, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, en fait, soit ils sont empêchés de le faire, faute de moyens humains, faute de moyens matériels, soit d'une certaine manière, ils sont limités dans leur action et par derrière, disons, on autorise ou on rend possible tous les contournements et les transactions que je décris et voilà qui rend ces contrôleurs des impôts dans une position très paradoxale parce que ils restent très attachés à leur mission et en même temps ils sont souvent voilà empêchés de la mener à son terme. Et ça, je crois que c'est une caractéristique de plus en plus courante dans les services publics et dans l'évolution de la fonction publique, hein. C'est cette misère de position qui consiste à avoir des agents qui continuent à ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État, qui continuent à être très attachés justement à un certain nombre d'idéaux, ce en quoi ils croient et ce pourquoi ils exercent leur métier. Et puis, parallèlement, disons, des évolutions de structure qui les empêchent d'accomplir ce en quoi ils croient. Et donc, voilà. Et donc, ils les placent dans une position finalement très inconfortable et parfois même dramatique, en fait. Et je crois que, de ce point de vue-là, l'administration fiscale, c'est un centre d'observation privilégié parce que, voilà, on voit ça, qu'on voit dans d'autres administrations, mais ça s'applique à l'ensemble du spectre social, parce que la particularité des impôts, c'est que toutes les catégories sociales sont confrontées à l'administration fiscale, y compris les personnes qui sont non imposables, mais qui doivent rendre des comptes.
Alors finalement, on a beaucoup, beaucoup fustigé Bernard Arnault ou Gérard Depardieu, mais ils n'avaient peut-être pas besoin de s'exiler si loin. Ils pouvaient très bien faire ce que font certains des personnages que vous avez rencontrés, c'est-à-dire discuter intelligemment avec le contrôleur. C'est peut-être à l'inspection locale des impôts ou peut-être directement à Bercy.
Non, mais je crois que c'est pas un hasard si on focalise à ce point-là sur l'exil fiscal. Il y a une espèce de chantage qui consiste à dire, ben voilà, finalement, il faut arrêter de continuer à imposer les catégories les plus favorisées, sinon tout le monde va partir et donc on va se retrouver entre personnes moins bien dotées. Enfin, voilà, il faut refuser, à mon avis, ce chantage qui consiste à dire, bon, hors de là, il y a point de salut. C'est-à-dire, soit on baisse l'impôt des riches, soit on accepte qu'ils s'exilent tous.
Serge, Alimi?
Oui, l'article est intéressant parce qu'il montre bien comment, dans certains cas, il y a une forme de connivence qui s'établit entre le contrôleur du fisc et ou les salariés ou pas salariés qui disposent de revenus importants et qui sont en bonne intelligence avec leur contrôleur, alors que dans d'autres cas, le dialogue est beaucoup plus dru, beaucoup plus sévère. L'article commence par cette histoire qui se passe au centre d'impôt dans le département du Nord. Vous avez une femme algérienne d'une cinquantaine d'années qui parle français avec un fort accent, qui se présente au guichet en brandissant sa taxe d'habitation et qui dit « Moi, j'ai 300 euros de RMI et on me demande 269 euros de taxes d'habitation. » Impassible, le contrôleur lui rétorque. « Là, c'est lié au fait que votre fille habite avec vous. Comme elle a perçu des revenus, vous perdez l'exonération de la taxe d'habitation que vous aviez l'année dernière. » Alors, la personne répond « Mais ça, c'est son salaire. Je ne touche pas à son salaire. Ma fille, c'est pour la dépanner et moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Déjà, j'ai plein de dettes. L'huissier qui vient chez moi... » Au plan contentieux, vous n'avez plus le droit à une exonération, mais vous pouvez demander un étalement des paiements, tranche le contrôleur. Là, on voit que les choses sont assez sévères, assez brutales. Il n'y a pas vraiment de dialogue, il y a des règles qui s'appliquent, qui s'imposent, y compris et en particulier à ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de les discuter.
Le petit bipède de dont parlait BHS se cramponne à son idée américaine de baisse d'impôts. Alors, revenons une fois pour toutes à ce qu'est réellement une baisse d'impôts. Prenez la famille Groulin, par exemple. Une baisse de 10 points d'impôts pour eux, ça veut dire une baguette de pain en plus par mois, deux cahiers supplémentaires pour les enfants et une essoreuse en plastique pour madame. Désolé, mais c'est pas rien. Même chose pour la famille de Beaugency. Pour elle, une baisse de 10 points d'impôts, ça veut dire une limousine allemande de plus pour monsieur, une maison de campagne pour madame et un peu d'espace pour le chien. Que demande le peuple ?
Bien des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poire et de ballot. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire ? As-tu déclaré tes revenus ? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus ? tout ce que t'as gagné.